Inévitablement, le problème du commandement se pose en ces termes. Qui jouera le rôle de Dieu? Mouad Dib, extrait de l'Histoire orale. Hui Nori suivit la jeune truitesse qui la guidait sur la large rampe spiralée qui s'enfonçait dans les entrailles de la cité festive. La convocation du seigneur Leto lui était parvenue tard dans la soirée du troisième jour des festivités, interrompant un entretien qui avait sévèrement mis à l'épreuve sa faculté de maintenir ses émotions à un niveau immuable. Son premier assistant, Oswi Yek, n'était pas quelqu'un de particulièrement agréable, avec son visage long et étroit, ses cheveux d'un blond fade et son regard mobile qui évitait tout particulièrement de rencontrer celui de la personne à qui il s'adressait. Yek lui avait tendu un feuillet de papier mémorase qui contenait ce qu'il avait appelé « un résumé des dernières manifestations de violence signalées dans la cité festive ». Il se tenait tout contre le bureau derrière lequel Hui était assise et, fixant un point situé quelque part sur sa gauche, avait ajouté
« Les truitesses sont en train de massacrer les danseurs visages dans toute la cité », ce qui ne semblait pas les mouvoir outre mesure.
« Pour quelle raison ?» demanda Hui.
« On dit que le Benet Leilax a voulu attenter à la vie de l'Empereur Dieu. »
Un frisson de peur la traversa. Elle se laissa aller en arrière sur son siège et regarda autour d'elle. Le bureau d'ambassade était une pièce circulaire, occupée principalement par une console en demi-lune qui rassemblait sous sa surface polie les commandes cachées d'un grand nombre de dispositifs ixiens. La pièce avait un air sombre et austère, avec ses panneaux muraux destinés à camoufler des instruments qui rendaient impossible tout système d'espionnage. Il n'y avait aucune fenêtre. Dissimulant son trouble, Hui leva les yeux vers Yek.
Et le seigneur Leto n'a pas...
L'attentat, semble-t-il, a totalement échoué. Mais il pourrait être l'explication de cette flagellation publique.
Vous êtes donc sûr que l'attentat a eu lieu?
Oui.
C'était à ce moment-là que la truitesse dépêchée par Leto avait fait son entrée, à peine précédée par l'annonce de sa présence dans l'antichambre. Sur ses talons était une vieille du Bene Gesserit qu'elle présenta comme la révérende mère Antéaque. Celle-ci ne quitta pas Yek des yeux pendant que la truitesse, une jeune femme aux traits doux, presque enfantin, délivrait son message.
Il m'a dit de bien vous rappeler sa recommandation. Reviens vite si je t'appelle. Il vous appelle.
Tandis que la truitesse parlait, Yek était de plus en plus nerveux. Son regard se portait d'un point à l'autre de la pièce, comme s'il cherchait quelque chose qui n'y était pas. Hui prit seulement le temps d'enfiler une cape bleu foncé par-dessus sa robe et ordonna à Yek de ne pas bouger du bureau jusqu'à son retour. Dans la lumière orange du crépuscule devant l'ambassade, au milieu de la rue étrangement déserte, Antéaque s'était tourné vers la truitesse en disant simplement
« Oui ».
Puis elle les avait quittés. Et la truitesse avait conduit Hui par des rues désertes jusqu'à un grand bâtiment sans fenêtre dont le sous-sol abritait cette rampe spiralée. Tous ces tournants donnaient le vertige à Hui. Des brilleurs d'un blanc éclatant flottaient au milieu du puits central, illuminant une plante grimpante vert-mauve aux feuilles éléphantesques. La plante s'enroulait autour de fils d'or miroitants. Le revêtement noir de la rampe absorbait le bruit de leurs pas, et rendait Hui consciente du léger frottement produit par les plis de sa robe.
« Où m'emmenez-vous » demanda-t-elle. « Voir le seigneur Leto. »« Je sais, mais où est-il »
« Dans ses appartements privés. »«
Ils sont bien loin sous terre ?»«
Oui, le seigneur aime bien se trouver dans les profondeurs. »«
J'ai le vertige à tourner ainsi sans arrêt. »«
Ne regardez pas la plante, cela ira mieux. »«
Comment appelle-t-on cette plante ?»
La vigne de Tounion. On dit qu'elle n'a absolument pas d'odeur.
Je n'en ai jamais entendu parler. De quel endroit vient-elle?
Seul le seigneur Leto le sait.
Elles continuèrent leur descente en silence. Hui essayait de comprendre ce qu'elle ressentait. L'empereur Dieu l'emplissait de tristesse. Elle percevait l'homme en lui. L'homme qui aurait pu être. Pourquoi un tel homme avait-il choisi cette manière d'exister? Quelqu'un le savait-il? Peut-être Monéo.
Peut-être que Duncan Idaho le savait. Ses pensées gravitèrent vers Idaho. Un homme séduisant, profondément intense. Elle se sentait attirée par lui, si seulement Leto avait son aspect et son corps. Elle comprit alors qu'elle ne pouvait pas discuter avec Idaho de la métamorphose de Leto. Mais avec Moneo, c'était différent. Elle demanda à la truitesse, « Parlez-moi de Moneo, voulez-vous » La jeune truitesse lui jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Son regard bleu pâle avait une étrange expression, comme une appréhension ou une crainte inexpliquée.
« Il y a quelque chose qui ne va pas ?»
demanda Howie. La truitesse reporta son attention sur la rampe spiralée devant elle.
Le Seigneur avait dit que vous poseriez des questions sur Moneo, murmura-t-elle. Alors répondez-moi.
Que puis-je vous dire? C'est le plus proche confident du Seigneur.
Plus proche encore que Duncan Idaho?
Bien sûr. Moneo est un Atreide.
Moneo est venu me trouver hier. Il m'a dit qu'il y avait une chose que je devais savoir à propos de l'Empereur Dieu. C'est que l'Empereur Dieu est capable de faire n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Du moment qu'il pense que la chose est instructive.
Beaucoup le croient, dit la truitesse.
Pas vous?
Elle avait posé la question au moment où la rampe, après une dernière boucle, débouchait sur une petite antichambre, avec à quelques pas de là une entrée en forme d'arcade. Le seigneur Leto va vous recevoir immédiatement, dit la truitesse. Puis elle remonta par la rampe sans avoir dit ce qu'elle pensait à Hui. Celle-ci passa sous l'arcade, et se retrouva dans une pièce au plafond bas, beaucoup plus petite que la salle d'audience. L'air y était vif et sec. De pâles rayons de lumière jaune descendaient de plafonniers dissimulés aux angles des murs. Elle laissa sa vision s'adapter à l'éclairage réduit, remarqua les tapis et les coussins moelleux répartis autour d'une masse de... Elle porta la main devant sa bouche quand elle s'aperçut que la masse bougeait et qu'il s'agissait de Leto sur son chariot. Mais le chariot se trouvait dans un renfoncement du sol. Elle comprit immédiatement le pourquoi de cet aménagement. Cela le rendait moins imposant face à ses interlocuteurs humains, moins écrasant du fait de sa hauteur physique. Rien ne pouvait changer, évidemment, les autres dimensions de son corps gigantesque, sinon le fait de les maintenir dans l'ombre et de concentrer la plus grande partie de la lumière sur son visage et ses mains.
« Entre et viens t'asseoir !»
lui dit Leto d'une voix grave et agréable qui invitait à la conversation. Elle choisit un coussin rouge à quelques mètres du visage de l'Empereur Dieu et s'assit. Leto suivait ses mouvements avec un plaisir visible. Elle portait une robe aux reflets mordorés et sa chevelure nattée en arrière donnait à son visage un aspect frais et innocent.
« J'ai fait parvenir votre message à X, » annonça-t-elle. Et je leur ai même dit que vous vouliez savoir mon âge. Ils répondront peut-être. Et qui sait s'ils ne diront pas la vérité? J'aimerais bien savoir quand je suis née, avec toutes les circonstances. Mais je ne comprends pas pourquoi vous vous intéressez à cela.
Tout ce qui te concerne m'intéresse.
Ils ne vont pas être contents d'apprendre que vous avez fait de moi une ambassadrice à titre permanent.
Tes maîtres représentent un curieux mélange de formalisme et de laxisme, murmura Leto. Je ne peux pas supporter les imbéciles.
Vous jugez que je suis une imbécile, monseigneur?
Pas toi, ma chère. Et Malky n'en était pas un non plus.
Il y a des années que je n'entends plus parler de mon oncle. Parfois je me demande s'il est encore vivant.
Peut-être apprendrons-nous cela en même temps? Malky ne t'a jamais parlé de la manière dont je pratique le Takiya.
Elle réfléchit quelques instants.
Ce n'est pas ce que les anciens Fremen appelaient Ketman?
Oui, c'est l'art de cacher son identité quand il pourrait être néfaste de la révéler.
Je m'en souviens maintenant. Il disait que vous aviez écrit des livres d'histoire sous des pseudonymes et que certains sont célèbres.
C'est à cette occasion que nous avons discuté du Takiya.
Pourquoi me parler de cela, monseigneur?
Pour éviter d'autres sujets. Sais-tu que c'est moi qui ai écrit les ouvrages de Noah Arkwright?
Elle ne put éviter un gloussement.
Comme c'est amusant, monseigneur. On m'a forcé à lire sa biographie.
Je l'ai écrite aussi. Quel secret t'a-t-on demandé de m'arracher?
Elle ne scia même pas devant ce stratégique changement de conversation.
Ils sont curieux de connaître les mécanismes internes de la religion de l'Empereur Dieu.
Vraiment ?
Ils aimeraient savoir comment vous avez évincé le Bene Gesserit du pouvoir religieux.
Sans doute dans l'espoir de répéter l'opération pour leur propre compte.
Je suis sûr que c'est ce qu'ils ont en tête, Monseigneur.
Tu fais une bien piètre représentante des intérêts ixiens, Hui.
Je suis votre servante, Monseigneur.
N'as-tu pas de curiosité personnelle ?
Je crains que ma curiosité ne vous dérange, Monseigneur.
Il la dévisagea un instant, puis murmura.
Je vois. Tu as raison. Nous devons éviter pour l'instant les sujets de conversation trop intimes. Veux-tu que je te parle du Bene Gesserit ?
C'est une bonne idée. Savez-vous que j'ai rencontré aujourd'hui une de leurs révérendes mères ?
Ce doit être Antéac.
Je l'ai trouvée effrayante.
Tu n'as rien à craindre d'elle. C'est moi qui l'ai envoyée à ton ambassade. Est-ce que tu t'étais rendu compte que tu étais entouré de danseurs visages ?
Elle étouffa une exclamation, puis se tint raide tandis qu'un froid lui envahissait la poitrine.
Oswiyek ?
Demanda-t-elle.
Tu le soupçonnais ?
J'éprouvais seulement de l'antipathie pour lui, alors qu'on m'avait dit...
Elle frissonna alors, comprenant ce qui avait dû se passer.
Qu'est-il devenu ?
Tu veux dire le vrai ? Il est mort, naturellement.
C'est ainsi que les danseurs visages procèdent en de telles circonstances.
J'ai donné explicitement l'ordre à Maitruites de ne laisser aucun danseur visage vivant à l'intérieur de ton ambassade.
Hui ne répondit pas, mais les larmes coulèrent sur ses joues.
Cela expliquait pourquoi les rues étaient désertes.
Cela expliquait le « oui » énigmatique d'Antéac et bien d'autres choses encore.
Je mettrai Maitruites à ta disposition jusqu'à ce que tu puisses réorganiser ton ambassade, reprit Leto. Elles veilleront sur toi.
Hui secoua ses larmes. Les inquisiteurs d'Ix allaient être fous de rage contre le Tleilax. Ajouterait-il foi au rapport qu'elle leur enverrait ? Toute son ambassade aux mains des danseurs visages. C'était presque impossible à croire.
Toute l'ambassade ? Demanda-t-elle.
Il n'avait pas de raison d'épargner qui que ce soit. Ton tour serait venu après.
Elle frissonna.
Ils ont attendu, reprit Leto, parce qu'il fallait imiter avec une précision capable de mettre mes sens en défaut. Ils ne savent pas exactement jusqu'à quel point je peux les démasquer. Et Antéac ?
Les révérendes mères et moi avons le pouvoir de reconnaître les danseurs visages. Antéac est très forte à ce jeu-là.
Personne ne peut faire confiance au Tleilaxu, murmura Hui. Comment se fait-il qu'il n'ait pas été éliminé de l'Empire depuis longtemps ?
Les spécialistes ont leur utilité, de même qu'ils ont leurs limitations. Tu me surprends, Hui. Je ne te croyais pas capable de penser sanguinaire.
Les Tleilaxu, ils sont trop cruels pour être humains. Ils ne sont pas humains.
Je t'assure que les humains peuvent être aussi cruels qu'eux. Moi-même, à l'occasion, je me suis montré cruel.
Je le sais, Monseigneur.
Après provocation, je dois le préciser. Mais les seuls sujets de l'Empire dont j'ai jamais envisagé l'élimination sont les membres du Bene Gesserit.
Le choc fut trop grand pour que Hui le traduise en mots.
Le Bene Gesserit ressemble tellement à ce qu'il devrait être, reprit Leto. Et il en est pourtant si éloigné encore.
Elle recouvra sa voix.
Mais l'histoire orale dit
la religion des révérendes mères, oui. Il fut un temps où elles fabriquaient des religions spécifiquement adaptées à des sociétés données. Elles appelaient ça de l'ingénierie. Qu'est-ce que tu en penses ?
Cynique ?
Effectivement. Et les résultats sont à la hauteur de la faute. Même après les plus grandes tentatives écuméniques, il y a toujours eu à travers tout l'Empire d'innombrables dieux, divinités mineures et soi-disant prophètes.
Vous avez changé cela, Monseigneur ?
Dans une certaine mesure. Mais les divinités ont la peau dure, oui. Si mon monothéisme prédomine, le panthéon des origines n'en subsiste pas moins. Il s'est seulement enfoncé sous différents accoutrements dans la clandestinité.
Monseigneur, je sens dans vos paroles une...
Elle secoua la tête. Tu me trouves aussi froidement calculateur que le Bene Gesserit. Elle acquiesça en silence. Ce sont les Fremen qui ont défié mon père, le grand Mouad Dib, qui d'ailleurs n'aime pas ce qualificatif de grand.
Mais les Fremen ont-ils eu raison?
Ma très chère, oui. Ils étaient sensibles à l'usage du pouvoir et soucieux de maintenir leur ascendant.
Je trouve cela perturbant, monseigneur.
Je le vois. Tu n'aimes pas l'idée que devenir un dieu puisse être aussi facile, comme si cela pouvait arriver à n'importe qui.
Cela paraît trop simple, monseigneur.
Il y avait dans la voix de Hui quelque chose de lointain et de défiant.
Je t'assure que cela ne pourrait pas arriver à n'importe qui.
Mais vous laissez entendre que vous avez hérité votre divinité de...
Ne dis jamais cela devant une truitesse, fit Leto. Leurs réactions devant l'hérésie sont violentes.
Elle voulut déglutir malgré sa gorge sèche.
Je dis cela uniquement pour te protéger, reprit l'empereur Dieu. Je vous remercie, monseigneur,
fit-elle d'une voix à peine audible.
Ma divinité a débuté lorsque j'ai annoncé à mes Fremen que je ne pouvais plus donner l'eau de la mort aux tribus.
Tu sais ce qu'est l'eau de la mort?
Du temps de Dune, c'était l'eau récupérée à partir du corps de ceux qui mouraient.
Ah, je vois que tu as lu Noah Arkwright.
Elle sourit faiblement.
J'ai donc annoncé à mes Fremen, reprit Leto, que l'eau serait désormais consacrée à une divinité suprême que je ne nommais pas. Dans ma magnanimité, je laissais encore aux Fremen le contrôle de toute cette eau.
Elle devait être bien précieuse en ce temps-là. Extrêmement précieuse. Et moi, en tant que délégué de cette divinité sans nom, je pus superviser le contrôle de cette richesse durant près de 300 ans.
Elle se mordilla la lèvre inférieure.
Tu trouves encore cela trop calculateur? Reprit Leto.
Elle acquiesça silencieusement.
Ça l'était. Lorsque vint le moment de consacrer l'eau de ma sœur, je fis un miracle. De l'urne de Gani sortirent les voix de tous les Atréides. Ainsi, mes Fremen découvrirent que leur divinité suprême, c'était moi.
Hui parla alors d'une voix apeurée, ébranlée de perplexité par toutes ces révélations.
Monseigneur, êtes-vous en train de me dire que vous n'êtes pas vraiment un dieu?
Je suis en train de te dire que je ne joue pas à cache-cache avec la mort.
Elle l'observa durant quelques instants avant de répliquer d'une manière qui lui confirma qu'elle comprenait la signification profonde de ses paroles. Cette réaction augmenta encore l'attachement qu'il éprouvait pour elle.
Votre mort ne sera pas comme les autres morts.
Oui, ma précieuse oui, murmura Leto.
Je trouve extraordinaire que vous n'ayez pas à redouter le jugement d'une vraie divinité suprême.
Me jugerais-tu, oui?
Non, mais j'ai peur pour vous.
Songe au prix que je paie.
Chaque fragment de ma descendance portera prisonnière, isolée et impuissante, une partie de mon esprit conscient.
Elle mit ses deux mains l'une sur l'autre devant sa bouche et le fixa de ses yeux agrandis.
C'est l'horreur à laquelle mon père n'a pu faire face et qu'il a essayé à tout prix d'écarter. La division et la subdivision à l'infini d'une identité aveugle.
Elle abaissa ses mains et murmura
« Vous en aurez conscience ?»
D'une certaine façon, mais muettement. Avec chaque verre et chaque truite des sables, partira une gouttelette de ma conscience, lucide mais incapable d'actionner la moindre cellule, témoin à l'intérieur d'un rêve sans fin.
Hui frissonna. Leto la contempla tandis qu'elle essayait de comprendre ce que pouvait être une telle existence. Était-elle capable d'imaginer la clameur finale? Quand les composants morcelés de son identité voudraient s'agripper au contact évanescent de la machine ixienne qui enregistrait ses mémoires? Était-elle capable de sentir le déchirant silence qui succéderait à l'horrifiante fragmentation?
Si je leur révélais ces détails, monseigneur, ils pourraient s'en servir contre vous.
Les révéleras-tu?
Bien sûr que non.
Oui secoua lentement la tête.
Pourquoi avait-il accepté cette terrible transformation? N'y avait-il aucun moyen d'y échapper? Cette machine,
dit-elle au bout d'un moment,
celle qui transcrit vos pensées, ne pourrait-on la relier à un million de moi, un milliard ou encore plus?
Ma chère, oui.
Aucune de ces gouttelettes pensantes ne sera vraiment moi.
Les yeux de Hui se voilèrent de larmes. Elle battit plusieurs fois des paupières et prit une profonde inspiration. Leto reconnut la technique Bene Gesserit et la vague de calme qui s'ensuivit.
Monseigneur, vous m'avez causé une très grande frayeur.
Et tu ne comprends pas pourquoi j'ai fait cela?
Est-il possible que je le comprenne?
Certainement. Nombreux sont ceux qui pourraient le comprendre. Mais l'usage que font les gens de la compréhension, c'est une autre affaire.
Voulez-vous m'enseigner cet usage?
Tu le connais déjà.
Elle médita silencieusement cette réponse.
C'est en rapport avec votre religion, dit-elle.
Je le sens.
Leto sourit.
Je suis prêt à pardonner presque n'importe quoi à tes maîtres Ixiens pour le précieux don de toi qu'ils m'ont fait. Demande et tu seras satisfaite.
Elle se pencha en avant sur son coussin.
Expliquez-moi les mécanismes internes de votre religion. Tu sauras bientôt tout sur moi, oui,
je te le promets.
Rappelle-toi seulement que le culte du soleil chez nos ancêtres primitifs n'était pas tellement loin de la vérité. Le culte du soleil?
Elle se balança en arrière.
Le soleil qui règle tout mouvement, mais qui ne peut être touché. Ce soleil, c'est la mort. Votre mort, monseigneur?
Toute religion orbite comme une planète autour d'un soleil qui lui fournit son énergie, dont son existence même dépend.
La voix de Hui était à peine audible quand elle demanda
« Que voyez-vous dans votre soleil, monseigneur ?»
Un univers à plusieurs fenêtres, par où il m'est loisible de regarder. Mais quel que soit le cadre de la fenêtre, c'est ce que je vois.
L'avenir ?
L'univers est intemporel à ses racines et contient par conséquent toutes les époques et tous les avenirs.
C'est donc vrai, murmura-t-elle. Vous avez vu quelque chose que ceci?
Elle fit un geste vague en direction du long corps segmenté de Leto.
Empêche?
As-tu en toi ce qu'il faut pour croire que cette chose pourrait être, dans une toute petite mesure, sacrée?
Lui demanda Leto. Elle réussit seulement à hocher la tête.
Si tu partages cela avec moi, reprit-il, je t'avertis que le fardeau sera pénible.
Votre fardeau à vous en sera-t-il allégé, monseigneur?
Non pas allégé, mais plus facile à accepter.
Dans ce cas, je veux partager. Parlez, monseigneur.
Pas encore, oui. Il te faudra patienter un peu.
Elle déglutit, refoulant sa déception.
C'est mon Duncan Idaho qui devient de plus en plus impatient, continua Leto. Il va falloir que je m'en occupe.
Elle tourna la tête pour regarder derrière elle, mais la petite chambre demeurait vide.
Désirez-vous que je vous quitte, monseigneur?
Je voudrais que tu ne me quittes plus jamais.
Elle le contempla, en remarquant l'intensité de son regard, l'expression de vide affamé qui la remplissait de tristesse.
Pourquoi me dire vos secrets, monseigneur?
Je ne puis te demander d'être la femme d'un dieu.
Les yeux de Hui s'agrandirent de surprise.
Ne réponds pas, dit-il.
Sans presque remuer la tête, elle fit errer son regard du côté du grand corps entouré d'ombre.
Inutile de chercher des parties de moi qui n'existent plus depuis longtemps, dit-il. Certaines formes d'intimité me sont interdites.
Elle reporta son attention sur le visage encadré de replis, sur la peau rose de ses joues et sur le caractère intensément humain des traits, contrastant avec l'inhumanité du reste.
Si tu avais envie d'enfant, poursuivit Leto, je voudrais seulement que tu me laisses choisir leur père,
mais je ne t'ai rien demandé encore.
La voix de Hui fut un murmure à peine audible.
Monseigneur, je ne sais que...
Je vais rentrer bientôt à la citadelle, déclara Leto.
Tu viendras m'y rejoindre et nous aurons tout le temps de parler. Je te dirai alors quelle est cette chose que j'empêche. J'ai très peur, monseigneur. Plus peur que je ne l'aurais jamais cru possible.
N'aie pas peur de moi.
Je ne saurais avoir que de la tendresse pour ma tendre Hui. Quant aux autres dangers, mes truites te feront, s'il le faut, un rempart de leur corps. Malheur à elles s'il t'arrivait quelque chose.
Hui se remit en tremblant sur ses pieds. Leto put voir à quel point ses paroles l'avaient troublée et sentir la douleur qu'elle lui causait. Ses yeux luisaient de larmes. Elle pressait ses mains l'une contre l'autre pour les empêcher de trembler. Leto savait qu'elle viendrait à lui dans sa citadelle et que, quoi qu'il lui demandât, sa réponse serait la même que celle des truitesses. « Oui, Seigneur. » La pensée vint à Leto que, si elle l'avait pu, elle aurait volontiers changé de place avec lui pour lui enlever son fardeau. Et de ne pouvoir faire cela ajoutait à la douleur qu'elle ressentait. Hui était une intelligence bâtie sur une sensibilité profonde, sans aucune des faiblesses hédonistes propres à un homme comme Malki. Dans sa perfection, Hui était effrayante. Tout chez elle confirmait à Leto qu'elle était jusqu'au bout des ongles le genre de femme que, s'il avait vécu pour devenir un homme comme les autres, il aurait essayé, non, exigé, d'avoir pour compagne. Et les Ixiens le savaient.
« Laisse-moi à présent, » murmura-t-il.